Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Les humains que nous sommes écrivent leur vie plombée par l'attraction terrestre. Lui, il vole. Il vole et on lève les yeux pour le regarder danser. Normal, pour admirer une étoile. Je reçois Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris, dont l'autobiographie, coécrite avec Caroline de Bodina, sobrement intitulée donc cette autobiographie « Danser » et publiée chez Artaud, eh bien nous conte l'histoire de celui qui danse, comme on poursuit en fait la quête de l'absolu. Voilà. Bonjour Hugo Marchand.
Bonjour Isabelle.
Alors cher Hugo Marchand, pour qui, pourquoi danse-t-on ? Pour soi ? Pour la beauté de l'art ? Pour le regard de l'autre ? Des autres ?
On danse pour soi, d'abord, et puis on danse pour les autres. Mais je pense que le plaisir de la danse, il est ressenti, découvert, à travers son propre corps, à travers ses émotions. Donc on a cet appétit pour la danse parce que ça nous fait du bien à nous avant de pouvoir la partager. Et puis je pense qu'il faut se l'offrir à soi pour mieux l'offrir aux autres. Donc quelque chose qui va finalement, comme des vases communicants, se nourrir l'un de l'autre parce qu'on a besoin d'avoir un public pour pouvoir nous mettre en scène et puis proposer cette danse. Mais avant tout, elle est personnelle, je pense.
Elle est personnelle avant tout. Alors Hugo Marchand, quand on est enfant, faire le choix de devenir danseur classique et peut-être étoile, à un âge où les autres rêvent de devenir par exemple une idole du foot, c'est quand même choisir une visibilité particulière. Qu'est-ce qui nourrit chez un petit garçon ce rêve qui semble appartenir à un autre monde ?
Quand on est un petit garçon, on n'a pas du tout ses idées en tête. On a simplement l'envie de danser. Encore une fois, je pense que c'est le fil conducteur de ce parcours, c'est le plaisir et l'envie, le désir de la danse.
Mais c'est né de quoi ?
Je ne sais pas.
Vous l'ignorez ?
Je ne sais pas.
Un jour, à l'âge de 9 ans, vous annoncez donc à vos parents « je veux danser », mais vous ne savez pas comment c'est né, cette pulsion.
Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je le saurai. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du cirque. J'ai toujours aimé être sur scène pour les spectacles, avec les écoles, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai voulu danser. C'était une envie et une demande que j'ai formulée à mes parents. Et j'ai découvert la danse comme on découvre un premier amour, en fait. Donc, c'est une vocation, c'est quelque chose qui est né dans mon ventre et qui a fleuri comme une plante qui naît de la terre et qui s'est lancée. Moi, je me suis lancée dans la danse comme ça, en fait.
Alors, contrairement aux compositeurs, aux cinéastes, aux peintres, aux écrivains, eh bien, un danseur ne laisse ni partition, ni film, ni toile, ni texte. La danse, c'est l'art de l'éphémère. Comment un danseur classique, devenu étoile, laisse-t-il une empreinte sur son époque ?
C'est la mémoire collective. C'est la mémoire des autres. C'est ce qu'on se dit les uns des autres sur les danseurs qui sont passés avant nous. C'est la trace qu'on va pouvoir avoir laissée comme une odeur, comme une saveur qui va encore traîner un peu dans les murs quelques temps. Et puis je crois aussi que on dit beaucoup que les danseurs sont très égocentrés, oui, parce qu'on doit l'être pour notre travail. Oui. Mais d'une certaine manière, le danseur est peut-être un des artistes les moins égocentrés aussi, parce qu'en fait, on s'en va et puis il ne reste pas grand-chose. Il reste la mémoire des autres. Au mieux, ça reste pour 10 ans, 20 ans, allez, 50 ans. Nouraïev, peut-être pour 100 ans, pour certains, mais en fait, très vite oublié.
Parce que Hugo Marchand, dans ce livre, sobrement intitulé, je le rappelle, « Danser », vous confiez, la danse, ça se regarde, ça se ressent, on est dans l'immédiat, et comme la danse se propage par ses ondes, sur un écran, la danse perd de sa magie. Donc pour un danseur étoile, vous ne croyez pas en l'héritage des images enregistrées ?
Je pense que ça peut être un substitut intéressant, comme un outil là, pendant cette période Covid qu'on a traversée. Ça a été quelque chose qui nous a permis de garder le contact avec le public, avec les gens curieux. Mais clairement, pour
moi... Ça ne se savoure pas comme ça,
ah
la
ouais,
danse.
Non. Pour moi, la danse, ça se vit dans un théâtre ou dans un lieu défini, un lieu extérieur ou la rue, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un endroit...
Vous avez déjà dansé dans la rue ?
J'ai pas vraiment... Alors oui, dans la rue, bah, pour le plaisir de danser dans la rue, comme tout le monde, mais j'ai déjà dansé dans des lieux un peu étonnants. Là, le Palais Royal. D'ailleurs, pour le déconfinement, on avait... On avait organisé une petite danse de la joie entre l'œuvre de Daniel Buren au pied du ministère de la Culture. Et j'étais hyper content de participer à ça. C'était hyper léger, simple, mais c'était une manière de...
Ouais, ou comme Varna, par exemple,
ou à Varna,
qui est un endroit complètement hallucinant, au milieu de la forêt.
C'est hallucinant, ouais. Oui. C'est en Bulgarie, on se retrouve à faire cette compétition de danse dans un théâtre en plein air, avec du lierre dans les murs. C'est très, très beau. Et puis ça, c'est très casse-gueule aussi, parce que il y a l'humidité de la forêt
et
des arbres.
Il faut traverser quelques dizaines de mètres dans la boue avant de monter sur en fait, cette scène de bois qui prend justement la pluie, le vent, l'humidité sur laquelle on va devoir être virtuose. C'est complètement fou.
Oui,
et c'est le plus grand concours qui existe.
C'est le plus grand concours qui existe pour la danse. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Je ne dirais pas que c'est de la boue, mais en tout cas, c'est de la terre. C'est certain que pour faire des entrées différentes à cour ou à jardin par rapport au plateau, il faut traverser un peu la terre, des lierres, des fougères. Enfin, c'est un peu dingue. Et en même temps, il y a un truc qui est très mystique. Tout à coup, on a l'impression de retrouver une forme assez primitive de danser dans un élément très naturel.
On devient un faune.
Un petit peu. Il y a quelque chose d'assez spirituel, en fait. Et moi, ça me plaît beaucoup de ressentir la danse de cette manière aussi.
Hugo Marchand, rêver de devenir danseur étoile, c'est grandir devant un miroir, au propre comme au figuré. La vie est quand même vampirisée par le travail, dans une sorte d'abnégation. Et puis, l'enfant, avec ses professeurs, apprend à s'auto-corriger devant les miroirs qui tapissent donc les studios de tous les cours de danse. Cette quête de la perfection du geste, de la beauté du geste, elle ne laisse place, en fait, à aucun lâcher-prise. Ça inquiétait votre maman, ça, quand vous étiez enfant?
Ça inquiète toujours mes parents, je crois.
Toujours.
Non, mais c'est certain que l'apprentissage du lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas du tout inné pour moi. Je n'irai pas jusqu'à parler pour tous les danseurs, mais pour ma part, c'était pas quelque chose de très simple. Et c'est quelque chose que j'apprends à faire maintenant en tant qu'adulte et en tant que jeune adulte.
Parce que quand on est dans le contrôle absolu, j'imagine, je dis ça en néophyte, quand on est danseur étoile, non, il faut aussi un certain lâcher prise.
On est dans le contrôle absolu sur un certain point, et puis la scène représente ce lâcher prise. Le moment du spectacle représente cette liberté. Sans cette liberté, on est un exécutant et on n'est pas un artiste vibrant, je pense. Donc il faut cette dualité entre la rigueur et les choses très millimétrées, très calculées, et puis à un moment donné, faire confiance à sa bonne étoile, respirer et puis se libérer les émotions, libérer le message qu'on veut transmettre aussi.
Bon, alors l'examen dit morphologique pour entrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris, il est, faut bien le dire, j'assume le mot, je trouve, j'étais fascinée par tout ce que je découvrais, il est quand même d'une cruauté assez inouïe parce que chaque année environ 400 filles et 150 garçons sont candidats à cette école. Après l'examen physique et l'examen des capacités, seule une douzaine d'enfants seront admis. Mais les examinateurs mesurent la longueur des jambes, ils mesurent la longueur des bras, la longueur du cou, ils évaluent la longueur des tendons d'Achille. Trop court, c'est éliminatoire. C'est quand même très traumatisant pour un enfant.
Est-ce que c'est plus traumatisant de dire à un enfant à 9 ans qu'il ne pourra pas être danseur parce que son corps ne lui permet pas? Ou est-ce que c'est plus traumatisant de dire à un enfant à 18 ans qui a fait une formation pendant 10 ans qu'il ne pourra pas être danseur parce que son corps
ne lui
permet
pas? Mais s'il est terriblement doué et qu'il lui manque juste 4 cm de longueur de tibia?
S'il est terriblement doué, il sera danseur.
Mais il ne sera pas à l'Opéra de Paris.
Ça dépend, il y a plein d'exceptions. Aujourd'hui, l'opéra se diversifie beaucoup sur plein de sujets différents. On est quand même aujourd'hui, avec la danse classique, sur une quête de la beauté, de l'élégance, et à travers des codes où on avait des morphologies très précises et demandées. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
Ça commence à s'assouplir,
ça s'assouplit de plus en plus. Et puis, je crois que ce qui importe le plus, c'est vraiment ce que le danseur fait émaner de lui plus que son corps.
C'est ça.
Après, clairement, pour entrer à l'école de danse de l'opéra, il faut des qualités physiques et morphologiques qui ne sont pas forcément naturelles. Et tous les enfants n'ont pas ça. Donc, je pense que cet examen, il est peut-être un peu cruel pour des enfants jeunes, mais il est moins dur à avaler et à digérer quand on a 9 ans que quand on en a 18.
La qualité la moins naturelle sur le plan, justement, du potentiel physique, selon vous, c'est laquelle pour un enfant, par exemple?
Je pense que c'est l'en dehors.
C'est-à-dire les pieds?
c'est-à-dire l'ouverture des hanches.
Ah non,
c'est-à-dire
des
hanches. La capacité à avoir une rotation externe du fémur dans la cavité coxo-fémorale pour ouvrir
ça,
en fait.
Ça ne s'acquiert pas. Voilà.
Alors si, ça s'acquiert avec le travail. C'est ce que j'aime penser, c'est qu'un enfant a encore malléable parce que les tissus mous et les tissus durs ne le sont pas encore trop. Donc,
d'accord,
en fait, ils peuvent le travail façonne le nouveau corps du danseur. Et en commençant tôt la danse,
oui, puisque c'est son outil.
Ouais, on donne la capacité au danseur, en fait, de changer son corps et de le rendre fait pour la danse classique. Et ça, c'est quelque chose de chouette, en fait. On a presque l'impression d'avoir un pouvoir magique, de se dire, en fait, moi, en tant qu'enfant, adolescent, le travail que je vais fournir tous les jours va changer mon corps pour me permettre de faire des choses un peu extraordinaires. C'est génial comme pensée, ça.
Mais, Hugo Marchand, vous qui mesurez aujourd'hui 1m92, ce qui est absolument gigantesque pour un danseur, vous étiez déjà très très grand à l'époque. Donc comment êtes-vous passé entre les gouttes au cours de cet examen morphologique ?
Eh ben, je ne sais pas tellement. Je faisais pas 1m92 quand j'avais 12 ans.
Mais vous aviez déjà presque une demi-tête de plus que tous les autres.
J'étais plus grand. Après, c'est vrai que on cherche des grands danseurs parce qu'il faut pouvoir danser avec des grandes danseuses aussi maintenant. Puis c'est élégant d'être un grand danseur sur des grandes scènes comme l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier. On les voit mieux. J'imagine que quand on a très 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 envie, le désir de la danse peut-être
ça,
les centimètres en trop.
Voilà. Vous aviez 13 ans quand vous avez intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris et vous êtes entré dans l'univers le plus codifié du monde avec des règles quasi militaires, tout ça, bien évidemment, au nom de la quête de l'absolu. Alors, bien sûr, le bonheur de danser recouvrait tout ça, mais peut-être, à quoi avez-vous eu le plus de mal à vous accoutumer au départ ?
Mais je pense que c'est la vie en collectivité. C'est que on passe d'une cellule familiale. On était quatre chez moi, mes deux parents, mon frère. Et tout à coup, je me suis retrouvé dans une école où je rentrais le dimanche soir et je pouvais en sortir que le vendredi soir après la semaine.
Donc interne.
Avec l'internat, avec la cantine, la scolarité et la danse dans un seul et même bâtiment, en fait, et entouré de plein d'autres enfants et plein d'autres intervenants, adultes, professeurs. Donc en fait, on n'est jamais seul.
Il n'y a aucune intimité.
Il y a de l'intimité quand on se met un peu à part et qu'on essaie de trouver un peu de calme. Mais c'est vrai qu'on, malgré nous, on vit en communauté. C'est une troupe, déjà, en fait.
Déjà.
Donc, je pense que c'est ça qui est un peu compliqué la première année. Déjà, c'est faire sa place. Moi, je suis arrivé un tout petit peu plus tard que les autres. Alors, tout le monde avait déjà marqué son territoire. Donc, il a fallu que je trouve un espace pour pouvoir m'immiscer dans cette nouvelle école. Et puis ensuite, oui, c'est appréhender le regard des autres. On est tellement cruel quand on est des adolescents et des enfants que ce qu'on se balance à la tête, c'est terrible. Alors, dans une école où il y a un peu de compétition et puis beaucoup de sensibilité, ça peut certaines fois être assez violent.
Alors, cher Hugo, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, la scolarité et la danse sont deux temps très distincts. Mais le baccalauréat, pour tous les élèves, est littéraire. Donc tant pis si on adore les maths.
Bon, pour ceux qui ont la chance de passer le baccalauréat, parce qu'il y en a qui sont engagés dans la compagnie plus tôt, vers l'âge de 16 ans, certaines fois 15 ans.
Alors ils échappent au bac.
Et donc, ils échappent au bac. Ouais.
Incroyable.
Ou alors, ils passent leur bac
par correspondance
en arrivant dans la compagnie, mais c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma dernière année de danse qui correspondait avec mon année de terminale. Donc, j'ai pu passer mon bac littéraire parce qu'on est tellement peu arrivés en terminale entre l'écrémage régulier qui se fait chaque année à l'école de danse et puis les élèves qui rentrent plus jeunes dans la compagnie. En fait, on se retrouve à une classe de 10 à être en terminale. Donc, si on avait tous... En fait, un cursus différent, ce serait compliqué à organiser avec les professeurs.
On parlait de compétition à l'instant entre les jeunes danseurs. On fantasme beaucoup à l'extérieur, nous, néophytes, sur justement cette notion de compétition. C'est un carburant parce qu'il y a eu plein de séries, de films, de livres. Et moi, je me souviens, vous n'étiez pas né. Je regardais ce feuilleton avec Delphine Desieux qui se passait justement à l'opéra. Et on sentait que bon, la rivalité par rapport au regard des professeurs pour être choisi, pour monter dans la hiérarchie, pour passer brillamment tous les examens, tous les concours, parce que ça ne cesse, les examens et les concours.
Aujourd'hui, je trouve que le monde de la danse fait... Il y a beaucoup de fantasmes, en fait, qui sont créés autour du monde de la danse, un peu à tort, certaines fois. Je suis assez agacé, moi, de toutes ces séries qui sortent où chacun se fait des crasses, où il y a des histoires macabres dans les écoles de danse ou dans les compagnies. L'école de danse de l'opéra, c'est un endroit où on a une formation qui est assez dingue pour devenir danseur. Et forcément, comme on atteint, en fait, on touche à une école d'élite, on découvre finalement le monde du travail à un âge où, en fait, on devrait être insouciant et naïf et profiter de la légèreté de l'être. Et donc, en fait, on est vite dans la gravité de la vie en arrivant dans cette école. Donc forcément, oui, il y a de la compétition, il y a des moments avec beaucoup de pression, des moments de stress, mais il y a aussi beaucoup de moments de plaisir et d'apprentissage, de découverte de son corps, du corps de l'autre, découverte de plein d'autres matières que la danse, hein, parce qu'on a de l'histoire de la danse, on a des droits du spectacle, du solfège. Donc en fait, c'est vraiment un apprentissage, une formation, mais déjà dans un cadre très professionnel, à un
Bien
âge
sûr.
Où on n'est pas prêt pour ça. C'est
Avec
vrai.
Des codes, des règles absolument incroyables. Par exemple, j'ai découvert dans ce livre, intitulé « Danser », que vous avez été confronté à la sensation de la faim à l'opéra quand vous étiez adolescent, car le seul moment de la journée où vous étiez autorisé à manger ce que vous vouliez, c'était le petit déjeuner. Il paraît que tous les casiers étaient fermés à clé à la fin du petit-déj, impossible de grignoter. Et si jamais on est pris... En défaut de grignotage, c'est une grosse réprimande.
Oui, c'est un peu ça. Alors peut-être que ça a évolué depuis, mais alors c'est vrai qu'à mon époque, c'est terrible de dire ça. Ça fait 10 ans que je suis danseur, mais j'ai l'impression que c'était il y a déjà tellement longtemps. Non, il y en avait effectivement un placard à petit déjeuner où là, on avait toutes sortes de choses sucrées et pour les enfants. Mais c'est vrai que le reste de la journée n'était pas fun en termes de nourriture. Et après, ce qui est complexe, en fait, c'est que moi, j'étais déjà donc un grand garçon, plutôt fort, plutôt musclé, et que j'étais servi, en fait, comme une petite fille de 12 ans qui arrive à l'école de danse.
On
n'a pas vraiment les mêmes besoins nutritionnels. Mais bon, on s'y fait, on mangeait beaucoup de pommes. J'ai des souvenirs, en fait,
de manger beaucoup de pommes quand même pour être rassasié.
J'ai des souvenirs de manger beaucoup de pommes parce que c'est ce qu'on avait on pouvait en avoir plein, quoi.
Alors, vous avez donc appris à faire de votre corps un outil que vous avez façonné au-delà de la douleur, comme par exemple ce coup de pied que vous n'aimiez pas sa ligne, vous vouliez le sculpter, et vous lui avez infligé à ce coup de pied des petites tortures qui vous ont carrément conduite chez le médecin.
C'est-à-dire, comme je vous le disais, les articulations des danseurs à un certain point sont malléables, donc c'est super, et en même temps, oui, on est un peu fou quand on est à l'école de danse, quoi. On a envie de ressembler aux étoiles et aux danseurs de la compagnie, donc on s'inflige un peu des souffrances, mais en tout cas, on cherche à améliorer sa ligne de coup de pied. Le coup de pied, c'est la souplesse de la cheville, c'est comment on va réussir à tendre son pied.
Faisiez-vous pour ça?
On mettait nos pieds sous des canapés, des trucs comme ça, pour essayer de récupérer, en fait, de la souplesse articulaire, essayer de modeler, en fait, nos os presque à ces nouvelles contraintes.
Les professeurs le savaient ou pas?
On faisait tous ça, plus ou moins. Mais bon, en fait, je voudrais surtout pas qu'on ait l'idée que l'école de danse, c'est un moment traumatisant. L'école de danse de l'opéra peut être traumatisante pour certains, et est vécu pour d'autres avec un immense bonheur et une grande découverte de la liberté malgré les règles et les codes.
Donc, parce que si on n'est pas heureux, on s'en va, tout simplement.
Oui, c'est clair que si ça ne se passe pas bien, si on est malheureux, on démissionne. Le plaisir de la danse est malgré tout présent à chaque minute, à chaque instant, même s'il y a des contreparties. En fait, souvent, on parle de la danse comme de quelque chose de très dur, de très violent. Ça l'est, mais en face, il y a tellement de plaisir que c'est proportionnel.
Mais
sinon, on
ne
le ferait pas.
Mais bien évidemment, mais on va évoquer justement toute cette allégresse, cette euphorie, cette exaltation qu'il y a dans la quête du beau et de la danse. Hugo Marchand, aucune compagnie de danse n'a de racines aussi profondes que celle de l'Opéra de Paris, institution fondée par Louis XIV et qui a donc donné l'école française. Alors moi, j'aimerais savoir... En fait, quelle est la différence avec l'enseignement et l'art de la danse au Bolchoï? Parce que je suis totalement néophyte, mais on les compare souvent. D'un côté, il y a l'Opéra de Paris, de l'autre, le Bolchoï.
C'est vrai que le Bolchoï est aussi une très grande institution de la danse classique à Moscou. On a deux manières très différentes d'approcher le mouvement.
Vraiment ?
Oui, je trouve. Je dirais qu'en Russie, quelque chose de plus démonstratif, de plus show-off, peut-être un peu plus acrobatique. Et en France, on a quelque chose de plus chic, de plus supposé, proposé, plus que vendu sur le marché. On a une manière
plus chic, a dit Hugo Marchand, danseur étoile.
Ouais, bah je dirais que c'est l'art à la française. On a une manière, oui, je pense plus sobre et plus élégante de proposer des choses. Après, ça veut pas dire que le Bolchoï est beaucoup moins bien. Je pense que c'est une des très grandes compagnies de danse avec l'Opéra de Paris aujourd'hui qui permettent de faire rayonner cet art.
Alors Hugo Marchand, quand on a 14, 15, 16 ans et qu'on est interne à l'école de danse de l'Opéra de Paris, que perçoit-on, que capte-t-on du monde extérieur? Parce que, par exemple, votre frère aîné, Jean, je l'imagine, avait une vie totalement différente de la vôtre. Sur quoi échangez-vous quand vous cessiez d'être interne et le vendredi soir, vous rentriez chez vous? Bon, ses passions à lui, c'était
le rugby.
C'était le rugby,
ouais.
Alors, dites-nous, la batterie.
C'est vrai que, alors déjà, ça correspondait à un moment de notre adolescence où on a eu un peu une perte de contact parce que lui était en train de s'émanciper et moi j'étais déjà émancipé, mais en fait, finalement, émotionnellement, pas du tout. Parce que émancipé matériellement, parce que j'étais à l'autre bout de la France déjà. Et lui était toujours à la maison, mais déjà commençait à devenir un homme libre, alors que moi, j'étais encore très dépendant émotionnellement de ma famille.
Oui.
Et ça correspond à un moment où les adolescents commencent à se désintéresser du petit frère. Donc, forcément, on avait moins de choses à se dire. On s'est bien retrouvés depuis, maintenant qu'on est des adultes. Mais c'est vrai que quand on est à l'école de danse, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Il pourrait y avoir un bombardement sur Paris, à Nanterre-Préfecture, à l'école de danse. Si on n'ouvre pas la télé pendant la demi-heure autorisée le soir, on ne le sait pas.
Une demi-heure de télé le soir?
Je ne sais pas si c'est une demi-heure, mais je me souviens qu'il y avait une télévision où on pouvait se mettre tous d'accord pour regarder un programme jusqu'à nos horaires de coucher.
Mais c'est clair. Et quelle musique écoutiez-vous alors? Parce qu'il y a la musique classique, des ballets que l'on travaille, mais sinon, quand on se détend et qu'on a 15-16 ans...
On écoutait tout quand même. Alors, on n'avait pas les téléphones. Non, mais c'est terrible de dire ça. J'ai l'impression d'être un vieux schnock. J'ai 28 ans, je le rappelle.
C'est ça.
On avait des téléphones, mais ce n'était pas aussi précis que maintenant avec les iPhones, avec tous ces téléphones où on peut mettre plein de musique, regarder toutes les vidéos qu'on veut.
Deezer, Spotify,
donc, c'était un tout petit peu moins simple, mais on trouvait des moyens quand même de se divertir. On a quand même bien rigolé. Internat. Moi, j'ai quand même des souvenirs de grosses rigolades et de moments de communion avec mes amis, mes collègues. Quand même, c'était chouette.
Quand arrivent les grandes vacances pour les élèves de l'école de danse de l'Opéra de Paris, il y a des sports qui sont interdits?
Je dirais qu'il n'y a pas des sports qui sont interdits. Si on les pratique, on ne va pas se faire gronder. Mais en fait, notre corps est un outil qu'on surspécialise dans certaines dimensions, certaines amplitudes. Donc c'est un corps qui se renforce énormément, mais qui se fragilise aussi beaucoup en lui demandant d'aller à l'extrême dans certaines positions. On va le fragiliser sur plein d'autres aspects. Donc c'est pas interdit de pratiquer plein d'autres sports, mais c'est juste qu'on se rend vite compte. Alors maintenant je me rends plus compte que quand j'avais 15 ans, mais que le corps en fait s'abîme vite quand on fait d'autres choses.
Hugo Marchand, il y a dans ce livre un chapitre intitulé « Éloge de l'ennui ». Alors voilà, je voudrais repartir en arrière, expliquer un petit peu la hiérarchie, la graduation. À l'époque, vous étiez quadrille, juste au-dessus, il y a coryphée, puis il y a sujet, puis il y a rêve ultime, danseur étoile. Mais alors, lorsqu'on est quadrille, eh bien, pour danser un vrai beau rôle sur la scène de l'opéra, faut attendre qu'un titulaire éventuellement se blesse. On est au mieux remplaçant. Et pour passer le temps, j'apprends dans ce livre que eh bien, vous êtes dans les coulisses, assis par terre, à regarder ceux qui s'envolent dans les airs sous les cintres de l'opéra et vous trouvez le temps long, très long.
C'est-à-dire que c'est un autre apprentissage quand on intègre la compagnie. On est évidemment très heureux en fait, d'avoir enfin, d'être arrivé à devenir danseur professionnel, d'avoir un emploi, de sortir de l'école de danse et d'arriver dans cette institution qui nous fait tellement rêver. Mais les premières années, moi, je ne les ai pas bien vécues. Il y en a qui les vivent mieux que moi. On m'en fait d'ailleurs souvent le reproche parce que c'est vrai que je ne suis pas resté très longtemps quadrille. Mais moi, mes deux années de quadrille...
Parce que vous étiez trop doué pour rester quadrille. Tout de suite, vous êtes passé coryphée bien plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer, c'est ça ?
Je ne sais pas. Si... Non, pas trop doué, mais en tout cas, très travailleur. Peut-être chanceux aussi.
Il est humble.
On me fait souvent le reproche de me dire là, tu t'es tellement plaint alors que t'es resté que 2 ou 3 ans quadrille. Mais pour moi, c'était des années qui étaient difficiles où je me suis ennuyé et j'avais envie de plus. Donc c'est vrai qu'au début, on est remplaçant du corps de ballet, donc on est remplaçant des danseurs qui dansent dans le groupe.
Mais ça veut dire qu'il faut connaître par cœur absolument tous les rôles pour pouvoir remplacer au pied levé, c'est le cas de le dire, un danseur qui se blesse.
Il faut pouvoir être prêt à être jeté sur scène à n'importe quel moment.
Jeté sur scène, vous dites, c'est ça?
Oui, parce qu'il y a des fois, quelqu'un se blesse pendant l'acte 1 et puis il faut qu'on enfile un costume pour finir l'acte 1 ou commencer l'acte 2 à sa place. Donc on a des cahiers où on note les placements des danseurs, les comptes. Donc c'est tout un stress et un apprentissage qui est intéressant aussi parce que ça nous permet de rester sur le qui-vive et en fait d'avoir cette concentration très forte qui peut arriver à n'importe quel moment pour arriver et
essayer de... Bien sûr, donc on s'ennuie mais on apprend.
Beaucoup.
D'une autre manière.
Et puis on observe.
Voilà.
Et je crois qu'aujourd'hui on a tendance à oublier d'observer, de regarder les autres et en regardant on apprend beaucoup. Et moi j'ai beaucoup regardé mes aînés. Beaucoup regardé les gens danser et j'ai beaucoup appris en les voyant faire.
Alors, remplacer un danseur, vous avez vécu cette expérience sur Casse-Noisette, qui est un ballet d'une très très haute technicité et qui a des portées compliquées, n'est-ce pas ?
Alors, ça,
là, c'était à quelle époque ?
Alors ça, c'était quelques années après et c'était déjà différent parce que je ne remplaçais pas dans le corps de ballet, mais je remplaçais un danseur étoile qui était blessé, donc je remplaçais pour le premier rôle.
Vous étiez dans la hiérarchie, vous étiez quoi à cette époque-là ?
Alors j'étais coryphée, en fait, donc c'était l'époque où Benjamin Millepied était arrivé à l'opéra et il avait envie de faire danser des plus jeunes et des gens qui n'étaient pas forcément gradés.
Mais coryphée, c'est en dessous de sujet, c'est en dessous donc de premier danseur, donc c'est tout à fait audacieux de choisir quelqu'un qui est coryphée pour lui faire interpréter le rôle d'une étoile.
C'est audacieux, mais ce sont des choses qui peuvent se faire de temps en temps quand ils estiment qu'il y a un jeune à lancer, à voir comment il va se dépatouiller un peu dans ce grand bassin. Et puis c'est vrai que là même encore aujourd'hui, il y a des jeunes danseurs, coryphées, sujets qui ont des rôles d'étoiles parce qu'il y a des danseurs étoiles qui sont blessés, parce qu'il y a un effectif à remplir et puis aussi parce que ce sont des danseurs talentueux et qu'on a envie de les pousser et de les faire progresser rapidement. En fait, aller sur scène quand on n'est pas prêt, c'est aussi une manière de continuer d'apprendre. Le spectacle, en fait, n'est pas que la performance. Ouais. Le spectacle est aussi l'apprentissage pour nous. Alors c'est difficile hein, parce qu'on est tellement... sur le qui-vive, tellement stressé, plein d'adrénaline, qu'on a tendance à oublier que c'est aussi un endroit d'expérimentation.
Comment vous l'avez vécu, alors, ce remplacement ? Danser le rôle d'une étoile !
Je ne l'avais pas très bien vécu parce que j'avais été un peu balancé comme ça, j'avais changé de partenaire 2 ou 3 fois, il y avait eu des blessures autour de moi, je ne me sentais pas vraiment à la hauteur et puis... On a un peu la sensation d'être un escroc parce qu'on n'a pas le grade qui correspond au rôle.
Et pourtant, vous avez été choisi.
Voilà, mais bon, c'est vrai que c'était une expérience qui avait été très, très angoissante, je me souviens. Et puis, c'est un des seuls moments où j'ai douté de mon désir de la danse, où j'ai douté du désir d'être danseur et de continuer ce travail. Alors que c'était quelque chose qui me paraissait tellement évident. En fait, en sortant de ce spectacle, je me suis dit, est-ce que je me suis pas trompé de métier ?
Et pourtant, puis, que vous a dit Benjamin Millepied, alors ? Qui vous avait choisi, justement ?
Et bien, en fait, voilà, c'était malgré tout plutôt bien passé, mais entre ce qui se passe sur scène...
Est-ce que vous ressentez ?
Ce qui se passe dans la tête du danseur, il y a un monde.
Et ce qui se passe dans la tête des danseurs étoiles qui regardent un très jeune remplaçant danser le rôle d'une étoile, ça peut inquiéter certains, non ?
Ça dépend. L'opéra, ce qui est difficile dans la danse, c'est que tout est une question de goût, donc tout est subjectif. Donc, quand il y a un changement de direction... Il y a un changement d'équipe artistique et donc il y a des changements de distribution, il y a des changements de gens qu'on veut mettre en valeur et en lumière. Donc c'était un moment un peu compliqué où tout le monde s'est retrouvé un peu sur à plat et puis tout le monde devait un peu remontrer sa valeur et je pense que ça a été certainement mal vécu par certains, mieux par d'autres. En tout cas, c'est des émotions qui se contrôlent à l'âge adulte, hein, donc il n'y a pas la même ambiance que dans les films Black Swan et compagnie qu'on peut observer voilà. Au cinéma.
Hugo Marchand, il faut nous parler de ce que vous nommez dans ce livre, danser la vague scélérate, c'est-à-dire celle de la peur inouïe qui, de manière incompréhensible, se met à vous submerger. La peur de glisser, de rater un saut peut-être, de ne pas voler assez haut dans les airs, comme le font justement les étoiles. On a le sentiment, quand on vous lit, c'est très étonnant parce que vous êtes dans l'excellence et cette vague scélérate, elle rôde, il faut la tenir à distance, mais vous avez des moments de frayeur, comme ça. Ça y est, maintenant c'est dompté ?
Non.
Toujours pas ?
Mais je pense que ce sera jamais dompté. Parce que le jour où c'est dompté, ça veut dire qu'il n'y a plus de danger. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de frissons. Et je crois que le contrôle permanent et parfait, en fait, empêche le plaisir. Et empêche l'exaltation de la scène. Donc cette vague, il faut qu'elle se tienne à distance et que je puisse l'observer. Tout en sachant qu'elle est là, mais sans jamais qu'elle me submerge. La scène, c'est être sur un fil entre le contrôle, le lâcher prise, le plaisir et puis l'imprévu.
Elle est en pente, la scène de l'Opéra de Paris.
Alors, la scène de l'Opéra Garnier, elle est en pente à 5%, comme tous les théâtres à l'italienne, et la scène de l'Opéra Bastille, elle est plate, plus confortable.
Alors, vous préférez danser sur quelle scène ?
Je préfère danser à l'Opéra Garnier parce que le théâtre est magnifique et puis qu'il y a une réverbération des ondes que l'on peut émettre et que le public émet. Donc, pour moi, il y a un échange au-delà du visuel et au-delà des sons. Il y a quelque chose qu'on ressent dans la vibration des corps et dans la vibration des âmes, qu'on ne ressent pas à Bastille, qui est plus impersonnel, qui est très grand, avec une fosse d'orchestre très, très grande. Donc, on est très à distance du public. Je me sens comme dans un aquarium quand je suis à l'Opéra Bastille. Mmh. Observer, mais pas prendre parti le spectateur.
Alors, vous avez utilisé cette formule « vibration des âmes ». Justement, lorsque on danse en duo avec une danseuse, on évoquait Benjamin Millepied, bon, danseur étoile du New York City Ballet, époux d'ailleurs de l'actrice Nathalie Portman. C'est lui, Benjamin Millepied, à l'époque où il devint directeur du Ballet de l'Opéra de Paris, qui vous a offert ce cadeau absolument hallucinant, alors que vous étiez simple sujet, vous faire danser Manon avec pour partenaire une étoile de légende dont vous regardiez les vidéos quand vous aviez seulement 13 ans, Dorothée Gilbert. Et lorsqu'on lit les pages qui sont vraiment admirablement écrites, on se dit que là, le temps du ballet, vous êtes fou, amoureux de votre partenaire, comme dans la vie vraie, on ne peut même pas espérer l'être un jour. C'est ça ? Vraiment échanger, partager, danser à deux.
Toutes ces techniques dont on parle, le fait de façonner son corps depuis le plus jeune âge, en fait, on ne fait pas tout ça simplement pour la technique. On le fait vraiment pour raconter des histoires, parler d'une idée, partager un propos. La danse peut être aussi comme une manifestation, comme le disait Béjart, ça peut être un combat. Là, en l'occurrence, c'était une histoire à raconter. Et donc, en fait, toutes ces techniques qu'on appréhende pendant des années, elles nous servent à mieux parler.
Justement
de
ce qu'il va falloir raconter.
À devenir quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et c'est ça tout l'intérêt de mon métier. Et moi, je trouve, c'est d'avoir ma vie d'homme Hugo à l'extérieur, ma vie privée, et puis ma vie de danseur, en fait, qui est une vie multiple. Parce que je me transforme au gré de la programmation de l'opéra, qui est d'ailleurs merveilleusement faite par Aurélie Dupont. Et c'est vrai qu'on a des ballets tous plus riches les uns que les autres en termes de danse classique, contemporaine, moderne. Et donc on se transforme tous les 2-3 mois en un nouveau personnage,
histoire. Je reste sur Manon avec Dorothée Gilbert. 2 mois de répétition, 140 heures à huis clos dans un studio pour une date, un spectacle, un seul spectacle. Donc la quête de l'excellence, elle se moque du temps long, peu importe que ce soit pour une seule représentation.
Oui. Mais c'est même plus que ça. Je dirais que c'était peut-être même 15 ans de travail pour ce spectacle.
En fait, oui, en amont, bien sûr.
En fait, ça n'a pas tellement de sens. C'est pas très rationnel, la danse. On n'investit pas et on ne veut pas avoir un retour sur investissement. Le plaisir que j'ai ressenti pour ce spectacle, pour cette production, c'était un des plus grands bonheurs de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Oui, parce que vous dites dans ce livre, Danser, qui paraît chez Artaud, vous dites « Le jour où j'ai été nommée étoile », Je n'ai pas été autant applaudie que ce soir où, simple sujet, j'ai dansé Manon avec Dorothée Gilbert. Et vous nous confirmez que c'est l'un des plus grands, des plus exaltants souvenirs de votre carrière, de votre jeune carrière. Mais comment on redescend après Hugo Marchand? Comment on réintègre la vie vraie? Dehors, il pleut des cordes, il faut aller un taxi, traverser Paris et puis on se retrouve tout seul dans son appart. Comment
je dirais qu'on ne va même pas aller un taxi, on va prendre son ticket de métro comme tout le monde.
Alors, comment on fait quand on se retrouve
mais la vie
dans
se
le métro
charge.
Alors qu'on était acclamé comme un dieu vivant sous les ors du Palais Garnier.
Mais heureusement qu'on prend le métro comme tout le monde après avoir été acclamé sous les ors du Palais Garnier. Si on devait vivre comme on vit les spectacles à l'opéra, on deviendrait fou et puis puant. On deviendrait complètement dingue.
Hugo Marchand, c'est en mars 2017, à l'issue de la représentation de la Sylphide à Tokyo, que vous avez été nommé étoile. Vous aviez 23 ans. Aucun signe, aucune rumeur jamais ne court avant l'annonce d'une telle nomination. Le secret, il est toujours jalousement et bien gardé.
Ça dépend des nominations.
Vous saviez ou vous ne saviez pas?
Moi, c'était un peu particulier parce que je ne devais pas faire cette tournée. J'ai été rajouté parce qu'il y a un danseur étoile qui s'est blessé au dernier moment. Donc j'ai eu 10 jours, 2 semaines de travail et en arrivant, j'étais surtout concentré sur le fait de réussir mon spectacle que j'avais répété, mais pas vraiment comme je l'aurais voulu. Donc j'étais surtout concentré par rapport à ça. Et puis j'étais surtout à l'autre bout du monde. J'étais à Tokyo, au Bunka Kaikan, dans un théâtre à Ueno.
Alors loin de vos parents, loin du grand frère, Jean, loin des proches, des amis qui faisaient autre chose à l'autre bout du monde à ce moment-là.
Mais qui étaient en train de déjeuner, je pense. Nous, il était 22h à l'heure Tokyo.
Et oui, il y a 7h de...
Chez moi, il y a un décalage horaire monstre. Donc ils étaient en pleine journée en train de faire autre chose.
Ouais.
Donc c'est clair que oui, moi je me sentais pas du tout... J'ai pas du tout imaginé ça et ça a été une véritable surprise en fait.
Alors on est venu vous l'annoncer sur scène devant un public qui peut-être a été aussi surpris que vous.
Bah oui, parce qu'il parlait pas français, donc en fait il y avait une traductrice japonaise qui a fait la traduction, mais le temps qu'il y ait la traduction qui soit faite, il y a eu un peu deux vagues d'émotions un peu étonnant, mais bon c'est marrant que c'est un peu inédit comme nomination.
C'est Aurélie Dupont.
C'est Aurélie Dupont qui m'a nommée
dans Danseur Étoile. Danseur Étoile.
Voilà. Tout à fait, ouais. C'est Aurélie qui a pris cette décision.
C'est le Graal. Mais être étoile, ça isole aussi, un peu. Même si, comme vous, on est furieusement de son temps et on replonge sans cesse dans la vie vraie.
Ça isole parce qu'on peut avoir des responsabilités et du stress qui nous renferment sur nous-mêmes, mais de manière positive, je dirais. Parce qu'on est, pour pouvoir donner le meilleur le temps d'un spectacle, il faut avoir passé du temps avec soi avant. Pour savoir ce qu'on veut raconter. Et souvent, on a des œuvres qui sont physiquement très difficiles à interpréter. On a tendance à oublier que la danse classique est vraiment très athlétique et qu'on a des préparations physiques très importantes. Donc, ça prend du temps et c'est comme on se le disait avant, c'est une manière de prendre du temps pour soi pour mieux le redonner aux autres. Ouais. Donc, ça isole un petit peu, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément une partie de mon travail qui me plaît, mais elle est inhérente en fait au grade d'étoile.
Hugo Marchand, l'État finance à peu près à 60% l'opéra, n'est-ce pas? Donc sans mécénat, est-ce que l'opéra pourrait survivre?
Aujourd'hui, je ne pense pas. Là, on a vraiment besoin de philanthropes, de mélomanes, de ballettomanes et la ROP, d'ailleurs, qui est l'association qui s'occupe du mécénat à l'opéra, fait un grand travail pour évidemment soutenir les créations de la maison. Et je pense qu'on a vraiment besoin de nos mécènes aujourd'hui.
Je peux poser une question qui fâche. Peut-être que ça pose la question en fait, de la connexion à l'époque. Comment rend-on actuel un ballet imaginé il y a par exemple 150 ans?
Tout dépend en fait, de la compréhension de l'artiste de cette œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas danser les ballets comme on les a dansés. Il faut revenir sur les livrets, lire les livrets des ballets. Les histoires et comment on peut mettre ça au goût du jour. Aujourd'hui, par exemple, l'histoire du lac des cygnes, c'est l'histoire d'un prince.
Créé pour la Pavlova en 1905.
C'était pour Pavlova en 1905 ?
Oui.
Le lac des cygnes ?
Oui.
Ah oui, mais vous m'apprenez quelque chose. Il me semble que voilà, ce prince du lac des cygnes, en tout cas dans la version de Rudolf Nureyev, c'est quand même un jeune homme un peu mélancolique, un peu pas bien dans ses baskets. Il est jeune adulte, mais oui, voilà, il a 18-20 ans. Et puis, il a une relation quand même qui est très forte avec sa mère. Il n'a pas vraiment de père. On sait qu'il a quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui l'éduque, un homme qui prend soin de lui. Mais il y a une relation un petit peu ambiguë, donc c'est un peu troublant pour ce jeune homme. Et puis on se rend bien compte en fait que son désir est très troublé et qu'il va fantasmer l'amour à travers la créature du cygne et qu'il va en tomber amoureux. Le troisième acte avec le cygne noir, il va se faire duper. Mmh. Donc en fait, toutes ces histoires, au final, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui se pose des questions sur sa sexualité, qui se pose des questions sur les rapports qu'il a avec ses parents, qui se pose des questions sur ce qu'il veut être, ce qu'il veut devenir, ses désirs. Bon, en fait, moi, je trouve que c'est très actuel. Il suffit juste de le remettre au goût du jour. Après,
quand je vous entends parler, nous expliquer cela ainsi, je me dis que vous serez un jour un fabuleux professeur.
Je sais pas, peut-être que j'en aurai le désir après avoir dansé. En tout cas, j'aime raconter des histoires.
Hugo Marchand, comment garde-t-on la mémoire d'une chorégraphie qui traverse les siècles ? Parce que y a des ballets qui ont été créés il y a 150, 180, 200 ans. La musique, elle s'écrit sur des partitions, mais la danse et sa gestuelle, comment la note-t-on pour la mémoriser ? Tout à l'heure, rapidement, vous nous avez dit que vous aviez des petits cahiers quand vous regardiez les danseurs étoiles depuis la coulisse et vous notiez certaines choses, mais l'ensemble d'une chorégraphie, une représentation qui va durer 1h30.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a la vidéo, etc. Donc c'est différent, mais à l'époque il y avait ce qu'on appelait les maîtres à danser, qui étaient vraiment ces gens qui déjà nous apprenaient à danser au cours, qui nous donnaient tous les conseils et les exercices.
Vous êtes en train de nous dire que c'était uniquement oral.
C'était oral, alors il me semble qu'il y avait des notations de la danse, des écritures de la danse, mais qui sont en fait très compliquées à comprendre, et il faut avoir des formations en fait très poussées pour pouvoir être ce qu'on appelle choréologue, donc écrire la danse, mais c'est assez rare. Donc c'était vraiment des transmissions orales. Et il y avait donc ce rapport aux aînés qui était très important, parce qu'en fait, sans ces aînés, on ne pouvait plus apprendre et on ne pouvait plus refaire tous ces ballets. Donc on avait une manière, d'écouter, d'être attentif et de respecter le savoir de nos aînés.
Vous aimez la danse contemporaine ? Enfin, je ne vais pas poser la question ainsi, mais vous aimez vous exprimer, parce que je vous sens bien évidemment forcément curieux de tout ce qui peut se danser. Mais je me souviens... enfant, aller voir des ballets de Caroline Carlson à l'opéra. Bon, danser contemporain, c'est quelque chose qui vous plaît infiniment ?
Je trouve qu'il ne faut pas faire la différence entre danser classique, danser contemporain, danser jazz, danser moderne. On danse.
Et pourtant, c'est codifié autrement.
Oui, mais c'est un nouveau langage. C'est comme quand on parle. On peut parler anglais, français, italien. Là, aujourd'hui, moi, je parle mieux la danse classique parce que c'est le langage que j'ai depuis que je suis petit. Mais j'ai un plaisir similaire à faire de la danse contemporaine et à apprendre un nouveau langage.
Mais on arrive à être dans lâcher prise du contemporain quand on est aussi parfait dans la technique du classique ?
Ça s'apprend. On prend le temps de l'apprendre. On n'est pas bloqué dans le classique. On a créé un corps, façonné un corps qui est une pâte à modeler et qui va permettre à un chorégraphe, à un répétiteur, de nous aider à apprendre ces nouvelles techniques. Donc, pour moi, je ne fais pas la différence. Aujourd'hui, je suis en train de répéter avec Matzek pour sa soirée à l'Opéra Garnier. Je vais faire Don José dans Carmen. Et d'ici un mois et demi, je serai en train de répéter pour faire Albrecht dans Gisèle. Deux techniques totalement différentes de danse. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même motivation, en fait.
Hugo Marchand, vous avez 28 ans. À 42 ans, théoriquement, à l'Opéra de Paris, sauf si ça change quand vous aurez 42 ans. On prend sa retraite. Un danseur étoile prend sa retraite. Bon, cette règle imposée par l'Opéra, elle fait peut-être partie de celle qu'il faudrait repenser, parce que j'imagine qu'il y a des danseurs étoiles de 43 ans qui sont absolument prodigieux sur scène.
Je pense que c'est à tout à chacun. On a vraiment des parcours singuliers, très différents. Moi, j'ai été nommé danseur étoile à 23 ans, j'en ai 28. Il me reste 14 ans, si je compte en nombre d'années à faire avant ma retraite à l'opéra. Mon corps s'abîme, s'use avec le temps qui passe, avec les différentes productions que je fais. Donc j'espère...
Vous dites à 28 ans que le corps commence à s'abîmer, à s'user.
Oui, je le dis. Parce que c'est une vérité, en fait. On le sent nous-mêmes. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on danse moins bien. On trouve d'autres chemins pour continuer à progresser et à se faire plaisir. Mais forcément, on le sait de manière... tous les sportifs de haut niveau, passer le cap des 25, 26, bah, on est sur une pente descendante très douce, hein, mais une petite pente quand même. Donc, En fait, ça dépend. J'espère qu'à 42 ans, je serai en bon état et que j'aurai pu profiter de tout ça à fond. Voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à la nature. Il y a des gens qui, jusqu'à 45 ans, vont pouvoir danser. Certains 50 ans, peut-être même plus, 55
mais là,
ans.
Là, je parlais en fait du gong qui retentit cruellement. Parce que j'ai reçu dans cette émission, par exemple, Marie-Agnès Gillot, et qui a dû prendre sa retraite alors qu'elle est éblouissante sur scène. Donc, vous dites effectivement qu'on ne parvient pas à l'âge de cette retraite de la même façon pour l'un, pour l'autre. Mais en tout cas, l'âge, lui, il est administratif et incontournable. Donc, c'est cruel.
Ah oui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la passation. C'est que si personne ne part, personne ne rentre. À l'opéra, il y a 154 danseurs. S'il n'y a personne qui part à la retraite, il n'y a personne qui rentre dans la compagnie. Et l'opéra, on n'y fait que passer. Et c'est pour ça que quand je parlais d'ego aussi, il faut se le mettre dans la poche vite fait, parce qu'en fait, on n'est là que de passage. L'opéra reste pour toujours, j'espère, pour longtemps. Mais les danseurs, ils ne font que passer. Et il y en aura d'autres, et d'excellents qui feront rêver les gens. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être là comme un serviteur de la beauté. Carrière.
Vous parlez de passation, on va parler de transmission parce que j'ai vu qu'il y a ces fameux masterclass à Vertoux, la
oui,
ville de votre enfance, les 17 et 18 septembre prochains, pour amateurs et pré-professionnels. Il faut quand même un très très bon niveau, c'est ça?
C'est-à-dire que sur le week-end, c'est assez intensif. Il y a pas mal de cours de danse. Je donne les cours avec Nathalie Carnet, qui est une ancienne danseuse de l'opéra et qui est aussi professeure concertaire de Nantes. Et puis Pascal Rollo, qui était une de mes premières professeurs de danse à Nantes. Donc on est trois à animer cette masterclass. Et pour moi, c'est une manière de transmettre, de se faire plaisir tous ensemble. Mais le niveau est assez élevé parce qu'on a des élèves de l'école de danse de l'opéra. On demande plusieurs années de pratique.
Combien d'années de pratique vous demandez?
Demande au moins 4 ou 5 ans pour que les gens puissent quand même maîtriser un peu le langage et qu'on puisse... parce que c'est vrai que si c'était des cours débutants, je pense que je pourrais les faire, mais je n'aurais pas vraiment d'intérêt. Quelqu'un d'autre pourrait les faire mieux que moi, presque. Parce que s'adresser à des tout petits bouzous de 5-10 ans, ce n'est pas quelque chose qui est dans mon habitude.
Hugo Marchand, votre agenda d'étoiles, il est rempli de quelles dates incontournables pour les amoureux de la danse que nous sommes? Qu'est-ce que vous nous préparez?
Alors là, je pense qu'on va avoir une magnifique soirée Matsek à Garnier qui commence le 5 mai pendant un mois avec aussi les adieux d'un danseur étoile, Stéphane Bullion, qui part à la retraite le 4 juin. Et donc pareil, on parlait de passation, on parlait de ces moments où à 42 ans ça se termine. Je voulais rajouter quand même que c'était aussi une manière d'envisager d'avoir une autre vie dans sa vie de danseur. Moi je suis danseur.
On peut devenir chorégraphe par exemple.
Pourquoi pas? Mais être chorégraphe, pour moi, c'est une compétence et un talent totalement différent du fait d'être interprète.
Ne l'auriez-vous pas?
Parce que pour le moment, je vois en moi aucun talent de chorégraphie. C'est comme si vous demandiez à un pianiste de devenir un compositeur. En fait, finalement, c'est pas du tout le même travail. Un compositeur, même s'il joue bien un instrument, il sera jamais sans doute aussi bon que Katia Bounatichvili quand elle interprète du Rachmaninoff ou du Tchaïkovski sur son piano. Pour moi, c'est vraiment des métiers différents et je trouve qu'il y a aussi une beauté dans le hasard de savoir où la vie va nous porter, même si c'est assez angoissant. J'y réfléchis beaucoup, j'essaie de préparer, de semer des graines, voir où ça peut pousser, c'est sûr. Donc on a cette soirée Matsek, et puis ensuite Gisèle, à l'Opéra Garnier, toujours, sur le mois de juin.
À quelle date? Au mois de juin?
Ce sera pour moi à partir du 25 juin, ouais.
Avec des voyages à l'étranger prévus?
Et une grande tournée à Los Angeles sur le mois de juillet, au Hollywood Bowl. Donc on est super contents parce qu'on va danser dans un endroit où il y a 16 000 places. Alors c'est complètement dingue, avec des écrans géants. Donc
un endroit absolument génial.
C'est génial. Et puis
vous savez que les gens viennent avec leur
avec
petit pique-nique.
Etc. Mais c'est génial.
Oui. Je suis allée pour écouter des orchestres symphoniques, pour voir des ballets. C'est prodigieux.
C'est top.
Tout ça sous les étoiles.
Il y a un côté un peu presque pas populaire, mais en tout cas ouvert à tous, et ça c'est chouette. Donc pas que dans des théâtres avec des dorures aussi, c'est bien.
Hugo Marchand, la dernière page du livre donc, qui paraît chez Artaud et intitulé « Danser » m'a fait vraiment monter les larmes aux yeux. Il y est question, dans cette dernière page, dans la foule d'admirateurs qui s'agglutinent dans l'auditorium de la ville de votre enfance, il y est question d'un homme qui vous tend un livre sur lequel, à l'âge de 9 ans, vous avez écrit quelques phrases magiques qui préfigurent votre destin. Pour en savoir plus, il faut plonger bien évidemment dans l'autobiographie, mais je voulais simplement vous dire que Voilà, c'est la toute dernière page. J'allais refermer ce livre et vous m'avez cueilli. Voilà, ce livre, vous l'avez coécrit avec Caroline Debodina. Il a pour titre Danser. Il est publié chez Artaud. J'espère à bientôt, Hugo Marchand.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.